Hier, j'avais évoqué la situation de cet homme qui s'est trouvé en prison. Ça me fait penser à beaucoup d'autres choses. Ça m'a rappelé une expérience que j'ai eue il y a quelques mois, où je me retrouvais coincée dans un ascenseur avec cinq autres personnes. Et c'était à l'aéroport aux États-Unis. Et l'ascenseur était pas minuscule, mais quand même, c'était petit. C'était intéressant de observer ce qui se passait en moi, mais ce qui aussi se passait chez les autres pendant ce temps qu'on était coincé. Et même la notion d'être coincé, d'être bloqué dans l'ascenseur était intéressant. Car si on nous avait dit que voilà, le temps passé dans cet ascenseur va être 20 minutes, vous allez passer de tel endroit à tel endroit pendant ces 20 minutes, il n'y aurait rien du tout, on n'aurait pas du tout l'impression d'être bloqué, d'être coincé dans cet ascenseur. Ça aurait été juste le temps passé dans cet ascenseur, de passer de étage 1 à étage 2. Mais ce n'était pas le cas. On s'est glissé dans cet ascenseur très vite, tous croyant très avantageux et avantagés parce que les autres gens ont resté dehors. Ils n'ont pas pu glisser dans cet ascenseur avec tous leurs chariots et bagages, etc. Et puis, les portes sont fermées. Personne n'a vraiment prêté attention à quoi que ce soit, sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de mouvement et puis plus rien. Et tout de suite, quelque chose d'autre se passe. Il faisait extrêmement chaud. Dehors, il faisait extrêmement chaud. Et donc, tout de suite, on a l'impression que la tension monte. La température et la tension montent avec l'angoisse, avec la fermeture, etc. Alors, les différentes personnes ont agi de différentes façons. Il y avait une femme, un couple, en fait, et dans la femme, a très vite commencé à paniquer. Et à hurler, à frapper sur les portes, à appuyer sur l'alarme, mais pendant 3 minutes sans cesse, à essayer tous les boutons. Et au fur et à mesure que le temps s'éternisait, elle a commencé à hurler au secours, on est en train de mourir. La voix devenait de plus en plus forte et désespérée. Son mari, par contre, était rentré dans une logique d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un bouton qui était, en cas d'urgence, appuyé ici, un numéro qui va répondre, etc. Et donc, il était occupé uniquement à ça, à contacter les autorités qui allaient venir Regardez, il a sorti son iPad, commencé à trouver le numéro de son compagnie aérienne pour le prévenir qu'on était bloqué, peut-être il allait être en retard. Trouver le numéro des pompiers parce qu'on n'avait pas de résultats avec la sécurité, et donc trouver les pompiers de New York qui allaient venir nous secourir, etc. Très, très organisé dans son démarche, etc. Il n'avait pas du tout l'impression de se rendre compte que sa femme était née dans tous ses états et hurlait et frappait sur les portes, etc. Il y avait une autre femme, et ce qui était curieux aussi, qu'il y avait toutes ces nationalités. Ça, le couple était scandinave, je dirais, danois, je crois. Il y avait un Indien, un homme de l'Inde, qui avait, lui, se glissé dans l'ascenseur, et sa femme n'a pas pu entrer. Et donc, lui, il était préoccupé par comment prévenir sa femme qu'il est coincé dans l'ascenseur, qu'il ne s'est pas juste pris le premier avion pour San Francisco plutôt pour Delhi, ou, je ne sais pas. Parce qu'elle, probablement, soit elle restait sur le palier, soit elle avait pris l'autre ascenseur, il était déjà arrivé à l'autre étage. Et donc lui, il était un peu, pendant longtemps, il ne disait rien du tout. Et à un moment, quand on commençait à discuter entre nous, il nous a raconté ça. Et donc le monsieur avec le iPad, etc., sort son téléphone portable et lui propose de téléphoner à sa femme. Et l'autre femme, c'était une Allemande qui était surtout, mais indignée que ça puisse arriver. Mais c'est incroyable, cette Amérique qui prétend être tellement efficace, mais invraisemblable. De A à Z, depuis le début de son séjour, rien ne marchait. Et les gens se présentent comme étant avec des compétences, comme ils ont de bonnes réponses, etc. Mais en fait, ça s'avère que ce n'est pas du tout vrai, etc., etc. Et regarde, même ces boutons où on est censé appuyer, y avoir une réponse qui va venir nous secourir. D'abord, c'était un énorme statique. Puis quand il commençait à parler, c'était... Puis finalement, on réussit à communiquer quelque chose, et puis ils ne viennent pas. Elle était indignée. Et en plus, elle était inquiète pour son avion. Elle avait un avion pour Hambourg, elle était déjà en retard, parce que le système de transport n'avait pas bien marché, donc elle était en retard. Et donc, elle était furieuse. Moi et mon mari, on était en avance. Pour d'autres raisons, on a quitté, sachant que ça risquait d'être en retard, le train, etc. On est parti largement en avance, au cœur de Manhattan, et on était en pleine avance. Donc, ça, l'histoire de notre avion, on n'était pas très préoccupé par ça. Moi, c'était plutôt que j'avais très chaud. Et je me souvenais que j'avais oublié de remplir ma bouteille d'eau. Et donc, il me restait un tout petit peu d'eau dans ma bouteille. Et donc, moi, j'étais préoccupée à dire, « Mais merde, si on est coincé là longtemps, et il fait chaud comme ça, et cette femme, elle panique, et on n'a que ça comme eau. » Et mon mari était un peu... Bon, il essayait d'aider le Danois à communiquer. Il ne faisait pas grand-chose, mon mari. Il était juste là, à discuter avec l'Indien sur comment il avait pu trouver sa marrante, que sa femme était sur le étage, etc., etc. Et puis l'autre avec son iPad, et il n'arrivait pas d'avoir de réseau, évidemment, etc., etc. Bon. Tout ça pour dire que on a tous nos relations avec le fait d'être enfermé. Finalement, on pouvait voir les pieds des gens à l'étage, là. Mais à travers une toute petite ouverture dans les portes, on pouvait voir qu'il y avait des pieds qui étaient à peu près là. Et donc la femme était là, hurlant à ses pieds, et il n'y avait aucune réaction. Donc je pense que les gens n'entendaient pas, quoi. Et finalement, je ne sais pas quel miracle, les portes s'ouvrent, et il y avait un gars de sécurité qui était là. Mais ça s'est ouvert juste un petit peu, tu vois, assez large pour qu'on puisse sortir. Et il y avait un gars de sécurité qui était là, et la femme qui était en panique. Mais j'ai rarement vu quelqu'un bondir comme ça. Et elle n'était pas énorme, et c'était assez haut quand même. Mais elle a grimpé, et ce n'était pas possible. Et le monsieur disait, non, 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 mais attendez, attendez, on va faire monter l'ascenseur, vous n'avez pas besoin de grimper comme ça, non. Rien à foutre, elle avait laissé bagages, elle avait un chapeau, tout laissé là, elle s'en fiche, tu vois. Donc, s'en fichait de nous non plus, tu vois. C'était... Et puis le pompier était un peu étonné par ça, les gens sur le palier regardent, qu'est-ce que c'est cet événement, etc. Et l'Allemande, rien à foutre non plus, pas de panique, etc. Indignation toujours. Prend sa valise, met sa valise là, sur l'étage, et prend le chariot de l'autre et monte sur le chariot pour sortir. Et donc, c'était clair que, bon, le pompier s'est résigné, ok, ils vont sortir comme ça. On est tous sortis. C'est comme si toutes les situations étaient totalement dissipées, tout le monde part dans leurs différentes directions. Et on descend donc par l'escalateur, par l'ascenseur, pour faire notre enregistrement. Un énorme file d'attente, c'est le genre de truc où tous les vols sont dans le même file d'attente, etc. Et au fur et à mesure que les gens de l'ascenseur se sont rendus compte où il faut y aller, etc., on se retrouvait tous dans le file d'attente. L'Indien avec sa femme, donc tout le monde était tout souriant. Les Danois, je pense qu'ils sont passés devant parce qu'ils étaient tellement en retard. Et l'Allemande qui était juste derrière nous. Et donc, elle s'est renseignée. Elle avait dit l'horaire de son avion au monsieur au début, et elle avait dit, mais c'est bientôt, ça commence à être tard. Il dit, non, pas de problème, il y aura du temps, il y aura du temps. Pas de problème. Et donc, on reste là. Et elle était pas très sûre, indignée toujours de cette situation. Finalement, ça s'éternise, donc elle demande à quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, ce monsieur-là dit, ah non, non, mais non, il faut passer tout de suite, il faut passer devant tout le monde, c'est trop tard, etc. Donc elle est doublement indignée parce qu'elle a eu des confirmations là. Bon, on rentre, on prend notre avion, etc., etc. Arrivons à Paris, j'entends à la radio qu'à cause de cette le volcan qui est en Islande, je ne sais pas, nuage, tous les vols pour l'Allemagne étaient annulés la veille. Pour le nord de l'Allemagne. Donc, il n'y avait pas de vol à Hambourg ce matin-là. Et donc, cette femme, j'imagine, s'est trouvée coincée à l'aéroport de New York. Ou peut-être ailleurs, mais elle n'était pas arrivée à Hambourg. Alors, tout ça... Ça, cette histoire de prison m'a fait penser à ça. Et à combien plus on rend solides les murs, plus ils se solidifient. Disons, plus on se sent coincé dans cet ascenseur, plus on est coincé. C'est comme si on avait arrivé ici et on avait dit, ok, vous êtes coincé dans ces deux maisons pendant 7 jours. Il y a une personne qui a le droit de sortir, uniquement pendant un tout petit temps, uniquement pour prendre des provisions. Et c'est tout. Le reste du temps, vous êtes bloqué là. Vous pouvez sortir un peu si vous voulez aux alentours, mais pas beaucoup parce qu'il va pleuvoir et on ne vous a pas dit ça, et donc vous n'avez rien pour sortir. Il y aura, de toute façon, vous êtes bloqué même à la distance que vous pouvez marcher à pied parce que vous n'avez pas d'accès au train, bus, etc., etc. Et donc vous êtes enfermé ici. Plus en plus on reste, on se sentir vraiment mais enfermé, mais ça me fait chier ces murs. J'ai envie de partir, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'explorer là. J'ai envie de prendre la voiture et aller au bord de la mer. Je sais pas. Le fait est que ce n'était pas ça. Bon, peut-être on avait envie de sortir, de faire une promenade, de faire clean indoor, etc. Mais on n'avait pas vécu ça comme si on était en prison pendant 7 jours, restreinte à cette baraque, avec un lit qu'on n'aime pas, ou quelqu'un qui ronfle, ou partager les douches, ou une nourriture qu'on n'aime pas. Subir toutes les limites, etc. Et donc, notre port avec des murs dépend entièrement de notre de nous. Disons, si on les solidifie, si on les voit comme limites, c'est des limites. Et puis, donc, parfois, on peut dire, ok, bon, je ne me suis pas limitée par ça, mais j'ai besoin de ces murs pour me protéger. C'est nécessaire pour me protéger. Ben, ça devient les limites aussi. Ça devient une... Ça devient solide aussi, ça nous enferme aussi. C'est juste une autre façon de justifier la solidification. Il y a quelqu'un de solide qui a besoin d'être protégé, et donc il a des murs solides qui va le protéger. Alors, comment on reçoit comment on reçoit donc l'instant, la situation? Je donnais l'exemple de l'ascenseur parce qu'on avait chacun notre façon de expérimenter cette situation, d'être enfermé dans cet ascenseur. Mais le fait est qu'on est tous enfermés dans cet ascenseur qui est ici maintenant. Et comment, quel est notre rapport avec ça? Comment on le reçoit? Comment on le vit? Comment on vit les autres? Avec qui on est? Comment on perçoit les murs, comment on perçoit le ici maintenant, comment on... Si on voit que les murs, on ne va pas voir ce qui est à, entre guillemets, l'extérieur. On va toujours voir l'extérieur à travers cette cadre du fenêtre, parce qu'on est à l'intérieur des murs, et donc même le lointain est carré, parce que c'est toujours en rapport à là où je suis. Alors ça m'a fait penser aussi à un autre Coran. Tout ce que je raconte, c'est des Corans en fait. Le Coran de l'ascenseur bloqué, le Coran de d'être ici pendant une semaine, le courant de l'instant présent, le courant de mes lunettes qui sont sales. Tout est courant, en fait. Mais bon, ça m'a fait penser à quelque chose de très précis. Et donc, parfois, je peux juste les raconter, mais parfois, c'est intéressant d'avoir les mots précis qui sont indiqués. Parce que quand on travaille avec des Corans, on est censé réciter exactement, mot pour mot, l'histoire. Ça fait partie de la précision de cet instant, de ce moment, de cette situation, de cet échange. C'est très précis. Sachant que c'était traduit donc du chinois la plupart du temps. Donc. Bon, c'est en anglais. Je peux traduire après si vous voulez. Je crois que Michel, peut-être tu aimerais que ce soit traduit.
Non.
Enfin, on verra. Priest Tagen of Sogen Temple in Bizen Province. C'est pas très important de savoir qui est ce prêtre, où est ce temple, etc. Did further studies, visiting priest Gyo in Yoshu province. Donc, il quitte son temple où il pratique d'habitude, dans une province, pour poursuivre ses études, et il va voir un autre dans une autre province. When Tagen was about to leave, donc celui qui est venu pour approfondir ses études, quand il commence à partir, priest Gyo, celui à qui il rend visite, dit « Since I have nothing to give you, I should like to make this as my present. » Then he picked up a burning charcoal from the hearth, le feu, pour un charbon qui brûle, with the fire tongs, avec les pinces, and gave it to Tagen. Donc il prend ce charbon et il dit « Puisque je n'ai rien à te donner, j'aimerais t'offrir ce cadeau. » Donc il prend ce charbon avec les pinces et il le donne. Priest Tagen did not know how to receive it. Il ne sait pas quoi faire. He stamped out of the room and locked himself in one of the rooms there for 7 days. Il ne sait pas comment le recevoir, donc il s'en va. Il s'enferme dans une chambre pendant 7 jours. Tagen went to see Priest Gyo again to say goodbye. Donc après les 7 jours, il revient pour dire au revoir de nouveau. Gyo did the same thing again. Donc, il lui donne la même chose. This time, however, Priest Tagen had no hesitation in taking care of the matter. Cette fois-ci, par contre, Priest Tagen n'a pas hésité in taking care of the matter, disons, comment on peut se dire.
En prendre en charge la situation.
Voilà. De s'occuper de la situation, peut-être. Gyo approved it. Gyo a donné son approbation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un qui vient cherchant à approfondir quelque chose. Et donc il quitte chez lui pour venir chez un autre pour approfondir. Et quand c'est l'heure de partir de nouveau, l'autre lui fait un cadeau en disant « Je n'ai rien à te donner, donc j'aimerais t'offrir ce cadeau. » Et l'autre ne sait pas comment le recevoir. C'est compréhensible, n'est-ce pas? On te propose un charbon brûlant. que lui, il tient avec des pinces. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit, je n'ai rien à te montrer, donc je vais t'enfermer pendant un certain temps dans un ascenseur. Ben, comment tu reçois ça? Ben, dis donc, merci pour les cadeaux. Hein. Je préfère pas, donc je m'en vais. Et en plus, je trouve que c'est vraiment gonflé de m'offrir un truc comme ça. En fait, je suis furieux avec moi-même parce que je ne sais pas comment recevoir le cadeau qu'on me propose. Mais je trouve ça aberrant, je suis indignée. C'est pas possible, comment on peut me proposer un truc pareil? Et donc, furieux, je pars en claquant la porte. Mais il dit, ah, il y a quelque chose là. Donc, quand il s'enferme dans une des pièces pendant 7 jours, c'est qu'il va regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu ce qu'on fait ici. On s'enferme pendant 7 jours aussi. Pour regarder comment recevoir. Comment recevoir ce qui est offert. Et en faisant ça, on doit passer par plein de choses. On va passer par notre impression de ce qui est offert, notre idée sur ce qui devrait être offert, notre conception de ce que c'est brûler, ce que c'est un charbon, de ce que c'est recevoir un charbon, notre conception de l'autre, de ses intentions, qu'est-ce que je cherche vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qui suis-je, c'est vaste, c'est illimité en fait, toutes les choses qu'on est amené à regarder dans une telle situation. Et je répète, cette situation, chaque instant est un charbon brûlant. Et on a beaucoup d'idées sur ce que c'est. Et tant qu'on est enfermé dans cette pièce avec le charbon brûlant, le charbon va brûler encore plus. Et les murs vont encore plus. Plus solide et plus restreinte. Tant qu'on est fermé dans nos idées de qu'est-ce que c'est recevoir, qu'est-ce que c'est donner, qui donne, qui reçoit, posséder, pardon, posséder, accumuler, accepter, ne pas accepter, toutes ces choses qu'on a dit hier aussi, plus la situation devient rigide, solide, compliquée, angoissante, plus cette femme dans l'ascenseur hurlait et frappait, plus elle devenait désespérée, plus elle devenait désespérée. Ça augmente la panique. Plus moi je pensais combien il fait chaud, on va avoir soif, etc., plus je devenais plus chaud et on va avoir soif. Et est-ce que cette soif, cette chaleur venait de l'angoisse? Est-ce que la chaleur et la soif qui m'angoissaient? Et donc, après 7 jours, Teigen revient. Guillaume lui fait le même coup, même chose. Et cette fois-ci, on dit que Teigen a su comment s'occuper de la situation. Et Guillaume l'a approuvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tegan? Comment il a fait pour s'occuper de la situation? Qu'est-ce qui... Vous avez des idées? C'est comme avec tous les cons, c'est semblable aux autres. Donc, c'est semblable à l'histoire du chat, n'est-ce pas? Je ne veux pas donner l'impression que c'est toujours les situations extrêmes. Il s'agit de tuer quelqu'un ou quelque chose, ou recevoir quelque chose de terrible. Mais d'une certaine façon, c'est ça. C'est comme on chante à la fin de la soirée. La vie et la mort sont d'une importance extrême. Il s'agit... Mais vraiment de ça, de la vie et la mort. C'est vraiment cet extrême-là. Et donc, c'est Kant qui présente ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Il y a un autre qui n'est pas aussi extrême, apparemment, où le Bouddha arrive pour donner un discours devant une assemblée. Il a une fleur. Et il fait comme ça avec la fleur. Et dans toute la vaste assemblée, c'est un peu comme, j'envisage toujours la scène un peu comme Life of Brian. Est-ce que vous avez quelqu'un avec ce film, Monty Python, où le Christ, est là, c'est une énorme foule pendant des kilomètres et des kilomètres. Et il y a Brian, il y a quelqu'un, les gens au fond, ils disent, quand il dit quelque chose à propos de... The meek will inherit the earth, ou un truc comme ça. Eric Idle qui est là, qui dit The cheese? The cheese? What kind of cheese? Donc, cette scène avec le Bouddha, c'est ça, avec les fleurs. Et dans cette assemblée, il y a Mahakashapa qui sourit. Mahakashapa, c'est. Et à ce moment-là, le Bouddha dit. Je possède cette... Ah, j'ai même les paroles ici. Je ne me souviens jamais des paroles de ça, donc c'est bien. Il dit... Qu'est-ce que c'est? Il dit... I have the all-pervading true dharma, incomparable nirvana, exquisite teaching of formless form. Cette chose incroyable. It does not rely on letters and is transmitted outside scriptures. I now hand it to Mahakashapa. Donc il a ce truc extraordinaire, magnifique, exquis, qui transcende tout, qui n'a rien à voir avec les lettres, les mots, les sutras, etc., etc. Et maintenant, je le donne à Mahakashapa. C'est le charbon brûlant que Tegan offre à... que Guillaume offre à Tegan. Et celui qui... peut le recevoir, c'est celui qui l'a déjà, en fait, qui sait qu'il l'a déjà. Mahakashapa, il sourit avec les fleurs, parce que c'est évident. C'est pas quelque chose de mystérieux, exquis, invraisemblable, incomparable, nirvana, etc., etc. Priest Tegan, quand il revient, il le reçoit. Il le reçoit. Comment il le reçoit? Alors là. on pouvait dire avec générosité. Souvent, on croit que c'est celui qui donne qui est généreux. Et c'est vrai, s'il donne vraiment. Et c'est-à-dire, s'il donne sans attente de comment ça va être reçu. Et l'autre reçoit sans attente sur ce qu'il va recevoir ou ce qu'il reçoit. Il s'ouvre, il voit que les murs ne sont pas solides et il reçoit. Bon, ça semble joli, magnifique, exquis, incomparable au nirvana, etc. Dans l'instant présent, c'est juste ce qui est. C'est pas d'autre chose que ça. Quand on est Reiki, le serveur se présente, on tend notre bol, on reçoit ce qu'il propose, ce qu'il nous offre. Le serveur reçoit notre bol, on reçoit ce qu'il nous offre, il reçoit ce qu'on offre. Et on reconnaît ça en se prosternant chacun l'un vers l'autre. On reçoit, on est censé manger comme si on donnait à manger à un bébé avec ce genre de attention, avec cette tendresse. C'est pas, c'est vraiment, on se donne à manger, on tient la cuillère même comme ça. Il y a cette histoire métaphorique qu'on raconte. On dit l'enfer, c'est une pièce où il y a une longue table avec des bols pleins de nourriture et des longues cuillères. Et les gens sont face à face. Et les gens, les cuillères sont trop longues pour qu'ils puissent le mettre dans leur bouche. Et donc, ils sont dans l'enfer, il y a cette nourriture invraisemblable, magnifique, banque, festin, banquet devant eux. Mais ils n'arrivent pas à se donner à manger avec des cuillères parce qu'ils sont trop longs. Le paradis, c'est exactement pareil. Sauf là, les longues cuillères sont utilisées pour nourrir celui qui est en face. Et donc tout le monde mange à sa faim et donne à manger à l'autre, en donnant à manger à l'autre. Disons. C'est la parfaite métaphore de notre vie, de notre situation à nous tous. Alors on a le choix, enfer ou paradis. Bon, c'est une dualité très extrême, mais ça, c'est parlant, ça nous parle. Priest Tegan, il passe de l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est infernal cette histoire, je ne veux pas recevoir ce charbon. Et donc j'ai l'air ridicule parce qu'il m'offre quelque chose et je ne peux pas le prendre, mais il n'est même pas conscient de ça, il est furieux contre l'autre, là, il claque la porte, etc., etc. L'enfer. Il revient et apparemment, il a résolu la situation. Paradis. Bon, c'est pas dit paradis, mais ok. Alors, comment on fait dans notre vie de tous les jours, dans les situations très précises, ne pas s'enfermer, ne pas solidifier les murs, ne pas s'attacher à nos attentes, notre pratique de méditation s'agit de ça en fait, hein, c'est de juste rester là et laisser les choses monter, descendre, arriver, partir, voilà. Solidifier et dissiper.
Recevoir donner.
Recevoir donner. C'est comme la mère Teresa qui, quand on lui demandait, j'ai raconté ça plein de fois. Un journaliste lui demande, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Et elle dit, elle a répondu, je ne dis rien, je l'écoute. Et donc le journaliste dit, intéressant, qu'est-ce qu'il te dit alors ? Elle dit, rien, il écoute. Donc, oui, recevoir, donner. Qu'est-ce que c'est recevoir, qu'est-ce que c'est donner? Si on est juste là, dans une optique de « on va me donner quelque chose dont je reçois », c'est problématique. Si on est juste là, « je donne, je donne, je donne, je reçois jamais », c'est problématique. Encore une fois, c'est Est-Ouest, donner au savoir. 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que si peut-être dans le sens de ce que Freddy dit de recevoir, si on aborde ça comme dans notre assise, on s'ouvre à ce qui est. Sans s'accrocher à ça, on peut recevoir avec générosité, disons. Et en même temps, on offre notre présence. On donne tout notre être à ça. Car il faut vraiment donner tout son être à ça. À ce qui est. Enfin, je dis faut, falloir. Non, on a le choix, on n'est pas obligé. Mais tant qu'on ne le fait pas, on sera enfermé, on sera limité, on donne juste une petite part. Et notre libération, c'est de se donner entièrement. Et quelque part, c'est ce qu'on a toujours cherché, tous. On a toujours cherché quelque chose pour qu'on puisse se donner entièrement à ça. À parce que fondamentalement, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas vivre limité. On ne veut pas vivre contrainte. Quand on s'ouvre, quand il y a un instant d'ouverture, ça semble tellement bien. On se sent tellement bien. Et tout de suite, on va solidifier ça. Et donc, on va poursuivre cette ouverture. On va poursuivre cet instant, cet état. Et, de nouveau, on s'égare. Parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de s'ouvrir à tout, pas uniquement à ça. Et on peut avoir des... Moi, je regarde l'hôtel. Là. Et depuis toute la semaine, je suis face à l'hôtel. Et je passe par des moments de différentes pensées, concepts, idées, opinions, émotions vis-à-vis cet hôtel. De ne pas l'aimer du tout. D'être frustré parce que c'est pas symétrique, d'être dégoûté parce qu'on utilise une tasse de café pour l'incens, d'être trouvé ça merveilleux que c'est fait comme ça, d'être complètement figé sur le truc que ce n'est pas centré, que la petite table est un peu pas tout à fait en ligne avec le Bouddha, et le Bouddha n'est pas en ligne avec le milieu de la porte, et donc moi je ne sais pas encore cette histoire d'être au milieu, machin, etc. Toutes sortes de choses autour de ça. Plutôt que de juste voir juste les choses telles qu'elles sont, juste, ok, recevoir ça, juste être là avec ça. Et si j'arrive, et j'arrive parfois, juste. Donc, ce n'est plus quoi que ce soit, c'est juste ce que c'est. Et c'est magnifique. C'est vraiment la. L'expression. De notre pratique, du monde, de mon chemin dans le monde. Juste ça. Mais souvent, je m'égare en cherchant à comment je veux que ça s'exprime, plutôt que de ça s'exprime. Est-ce que vous avez des choses que ça vous évoque, aux questions, aux réponses, ou d'autres choses par rapport à hier ou à un autre moment?
Entendu ce commencement la première fois, tu avais pleuré et tu étais en désespoir parce que tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas devenir quelqu'un d'autre. Et là, en parlant de tes réactions à l'hôtel, aujourd'hui, 20 ans plus tard, C'est intéressant de voir que on est toujours en face des mêmes problèmes. On est toujours soit en face du monde, et même si on pratique la méditation ou autre chose pour vivre dans le moment, pour apprécier les choses telles qu'elles sont, c'est très difficile. C'est ça que tu es en train de dire.
C'est difficile. C'est difficile. Comme toute pratique, plus on le fait, plus ça devient plus fluide. Quelqu'un qui joue ce piano tous les jours, pendant des heures, va jouer ça d'une façon différente que quelqu'un qui n'a jamais fait. Moi, je ne peux pas jouer au piano. Ou quelqu'un qui le fait une fois par an, ou qui l'avait fait quand, dans sa jeunesse, et il se remet. Le fait est qu'il faut toujours suivre la musique, il faut toujours toucher les touches, il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe, présent à ce qui est, mais on a un rapport différent avec ça, et ça devient plus fluide, plus... Mais oui, le monde ne change pas. C'est vrai. Mais le monde n'a pas besoin de changer. Le monde est ainsi. C'est simplement que nous, on ne voit pas. C'est comme cette chose que je dis parfois, c'est que en général, d'habitude, tout obscure rien. Le tout, toutes nos idées, nos émotions, nos concepts, nos activités, et on cherche à obscurer le rien. À un moment, quand les nuages s'écartent, le rideau se lève, je ne sais pas comment on va le dire, on voit les choses telles qu'elles sont, rien obscure tout. Tout est soudainement évident. Et plus rien d'obscur. L'obscurcie.
L'obscurcie.
Ah donc, ça doit être tout obscurcie, rien. Ouais, j'utilisais la forme anglais du verbe obscur. Oui, donc, tout obscurcit rien, et puis après, entre guillemets, rien obscurcit tout.
Et quand on l'écoute, on a souvent l'impression qu'il y a un état final, comme quand on parle d'ouverture, tu sais. Tu as parlé d'ouverture. Il me semble que le mental, enfin, en tout cas moi, j'ai tendance à le comprendre comme s'il devait y avoir une ouverture et puis après c'est définitif. Mm-hmm. Et en fait, est-ce que c'est pas ça l'erreur, quoi? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait que ça s'ouvre, donc forcément ça va se refermer, en tout cas, ou ça va inclure la fermeture sans l'exclure.
Exactement. Si on inclut la fermeture.
Oui. Ouais.
Il n'y a pas de fermeture. On est ouvert à la fermeture. Mais absolument. Ça, c'est notre ignorance fondamentale. C'est ça que...
On apprend ça dans la pratique.
Absolument. À chaque instant, quand on est assis à notre coussin, on est confronté à ça. Et on apprend. On ne le voit pas. Forcément. Hein. Mais...
J'ai l'impression qu'on le subit en espérant qu'un jour ça va disparaître.
Et c'est exactement ça qui fait que ça ne disparaît pas. C'est comme j'ai dit, plus on solidifie les murs, et les murs c'est aussi le fait, la croyance que je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais arriver quelque part, il y a quelque chose de définitif, il y a quelqu'un qui sait, il y a une salvation, non. Salvation ? Non.
Un salut.
Quoi ?
Un salut.
Un salut, c'est ça. Et en fait, non. Et donc, c'est exactement ça.
Et en même temps, j'ai l'impression que cette croyance qu'il va y avoir un salut, c'est quand même un moteur important, en tout cas pour moi, pour se mettre en route à un moment. Pour... Si je n'avais pas eu cet espoir-là, je n'aurais jamais rien fait. Donc là aussi, c'est ambigu, en tout cas paradoxal, parce que finalement, c'est nécessaire aussi. Enfin, en tout cas pour moi, ça l'est sur mon corps.
Oui, oui, c'est absolument vrai. Et ce qui se passe, donc, oui, on a cette croyance, et donc là, je peux dire que dans la situation que Kathleen a rappelée, oui, moi j'étais bien partie pour j'allais être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'étais là. Et puis à un moment ou à un autre, on ne sait pas pourquoi, comment. Ça peut être des circonstances qui fait ça, etc. Une déception. Je ne sais pas, on n'arrive pas. L'échec, quoi. Ça, à un moment ou à un autre, ça comme du collapse, ça
s'écroule.
Cette espérance, et à ce moment-là, si on est très attaché à cette espérance, et on va se raccrocher de nouveau, et souvent, je vois que quand les gens arrêtent, quand ils disent « Oh non, je ne vais plus faire cette pratique, ou je ne vais plus faire les cours, ou je ne vais plus être avec cette maître, ou je ne vais plus... je ne sais pas... Je parle uniquement dans le contexte de la pratique. Ça. C'est parce qu'il y avait une très forte solidification d'un but, d'un résultat souhaité, etc. Et quand ce n'est pas obtenu, bah, c'est comme le prince, qui s'en va en claquant la porte. Alors, s'il s'en va en claquant la porte et il va regarder... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nécessaire parfois de s'en aller pour regarder ce qui se passe et pour suivre son chemin à une autre façon. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est que ce chemin-là ne convenait pas. Mais si dans le nouveau chemin, on s'établit de nouveau de buts, de nouveau d'espérances solides, etc., ça va faire la même chose. Donc c'est absolument nécessaire comme moteur, à un moment ou à un autre, il faut que ça cède. Sinon, on va jamais arriver à ce nulle part qui est, on est déjà là. C'est déjà ici. Mais tant qu'on est en train de regarder ailleurs, on ne va pas voir qu'on est là. Et à un moment ou à un autre, ça devient, on ne voit plus cet ailleurs. On n'arrive pas à cet ailleurs, et c'est là. Et donc, bon, là, il y a l'aventure qui commence aussi. De nouveau, ça va fermer, et on va le refaire. C'est pour ça qu'il y a tant de camps, en fait, dans le système officiel des camps. C'est que il faut de nouveau, et de nouveau, et de nouveau... Recommencer. Mais en gagnant en souplesse, en expérience, en confiance, et on arrive à avoir confiance dans l'univers. Ça ne veut pas dire que des doutes y reviennent, ou les croyances reviennent. Donc, je dirais, regardons notre moteur. Donc, regardons quelles sont nos attentes. Je peux projeter sur le maître que le maître va tout faire pour moi et je vais tout réaliser, ou que je vais devenir comme le maître, ou qu'il y a d'autres gens que j'ai vus, que je vais être comme eux. On va être déçus, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ou comme dans mon cœur, que j'étais persuadée que j'allais devenir quelqu'un d'autre. C'était très flou comme attente. Je n'avais pas précisément quelqu'un que je voulais être. Mais j'imaginais qu'un maître était quelqu'un qui savait quoi dire et qui disait quelque chose et qui avait quelque chose précis, etc. etc. Et je me suis rendu compte avec ce moment que non, pas du tout. Et à la fois, c'était réjouissante de réaliser ça, de voir que de cette réalité nue, de cette présentation de ce qui est, parce que c'était ça. C'était un instant où les nuages s'écartaient, et, c'était une réalité nue. Mais oui, quand c'est fermé, c'était « Oh putain, mais... oh là là, mais alors là, si c'est ça... c'est ça. C'est ça. Mais non. Non, pas ça. Pas ça, non. » Dans l'instant, quand c'est perçu, il n'y a pas de problème. Mais... tout de suite, quand ça se referme. Oh là là, non. Ou, ah, quel truc extraordinaire. Et on va se fixer dans cet extraordinaire. Donc, regardons quelles sont nos attentes. Très important. Quels sont les murs qu'on a construits. Je suis enfermé où? Comment mes murs se manifestent. Très important de regarder ça. Parce que c'est avoir une idée de qui on veut être ou où on veut aller, c'est une énorme limitation. Et c'est quand on a les préceptes qu'on prend quand on reçoit du kai, comme certaines personnes ici ont fait. Donc, le premier, c'est je fais le vœu de ne pas essayer de ne pas tuer, je crois, c'est formulé comme ça. Non ouais. Mais quand on fixe notre attention sur un but, on est en train de tuer l'instant. Quand on se fixe sur qui on veut être, on est en train de tuer qui on est. On ne le voit pas. On ne reconnaît pas qui on est. Bon, je présente ça d'une façon extrême, de nouveau. Je suis très étonnée moi-même de m'entendre présenter les choses d'une façon si extrême, mais bon, c'est ça.